Maïmonide nous dit, et la source est dans l'Agma, dans Ktubot, c'est la Halakha. D'accord, c'est pas qu'on peut dire que la loi n'est pas comme ça. La loi a été tranchée ainsi. Assur la tzet meres Israël, le chutzal haaretz leolam. Il est interdit de sortir de la terre d'Israël vers chutzal haaretz, vers l'étranger, leolam toujours. Ça veut dire qu'on soit en galoute ou pas en galoute, qu'on soit tous sur la terre d'Israël ou pas tous sur la terre d'Israël. Dans tous les cas de figure, leolam pour l'éternité, il est interdit de sortir de la terre d'Israël. Point. C'est clair. Et là, si ce n'est pour l'ilmot Torah, étudier la Torah. La Torah a préséance sur habiter la terre d'Israël. Ça veut dire, je ne peux pas étudier ici, je ne m'entends pas avec le Rav, je ne m'entends pas avec les copains de la Yeshiva, par contre là-bas j'ai un Rav fantastique avec qui j'accroche, je peux bien mieux étudier, tu as le droit de partir aller étudier la Torah à l'étranger. Oh Lisa Isha, tu as déjà fait les chidouch avec toutes les filles d'Israël, aucune ne te va, tu peux aller au Sénégal, peut-être en trouveras une là-bas. Oh la Simina Akum, ou troisième option, pour sauver des juifs des goïms. Il y a des goïms qui se trouvent maintenant en état de. Pas des goïms, il y a des juifs qui sont maintenant en état de souffrance et opprimés par des goïms. Tu peux aller là-bas aider les juifs à s'en sortir. Veyarzor la Haaretz. Et après qu'il aura fait cela, il reviendra en terre d'Israël. Tu dis maintenant suffisamment de Torah, tu sais maintenant le moment de venir faire un peu de business, tu vas revenir faire ton business en terre d'Israël. Tu t'es marié, tu reviens en terre d'Israël. Tu as sauvé les juifs des goyim, tu reviens en terre d'Israël. Vechen, de même, Yotsehu l'Esrora, on peut sortir pour aller faire du business. C'est-à-dire, il va maintenant pour. Il a un business maintenant, je sais pas moi, il importe en Israël du café, alors, il va en Colombie acheter là-bas du café, bon marché, il revient ici, c'est permis. Aval l'ishkon b'chutz la'aretz, mais habiter à l'étranger, assur, c'est interdit. Elle a une ken, si ce n'est, il y a un seul cas qui permet, ki chazak sham ara'av ashenasa shavedina chitin b'shendinarin. Si la famine ici en Israël est tellement grande que le prix du kilo de blé a doublé. S'en sort plus. Demandez-vous, Mourim, de quoi on parle? Chayou Amaot Metsuyot, Vaperot Bayoker. T'as de l'argent, mais la vie coûte trop cher, t'arrives pas à t'en sortir. Avec la Perot Bezol, mais si les prix sont normaux, l'Oim Samaot, mais lui n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, ce qui est souvent le cas parce que aujourd'hui est difficile, la vie est difficile en Israël, dans le monde entier d'ailleurs. Il a aucun métier, il a réussi pas à s'en sortir et il n'a plus d'argent dans la poche. Et c'est l'école Makom chez Imsa Borebar. Il sortira n'importe quel endroit où il peut trouver de quoi se nourrir. Et bien qu'il ait permis de sortir, ce n'est pas une mesure de piété. Charé, car Mahlon Zachilion. On a deux personnages dans la Bible. Mahlon et Kilion, c'est les fils de Elimelech, le premier mari, enfin le mari de Naomi, qui était Gdolador, qui était le grand de la génération. Les deux enfants, Mahlon et Chilion. Shnei Gdolei Hador Ayu étaient les deux grands rabbins de la génération. Ou peut-être Sarah Gdola Yatsu. À cause d'une grande détresse, ils sont sortis de la terre d'Israël. Ils avaient, d'après la loi stricte, ils avaient le droit. Il y avait la famine ici, ça n'allait plus du tout, on ne s'en sortait pas. Ils sont sortis. Et néanmoins, ils ont été coupables d'extermination, Dieu les a tués à l'étranger parce qu'ils ne devaient pas quitter la terre d'Israël. Même dans les cas difficiles, on ne te dira pas, tu es obligé de rester, tu peux sortir, mais ce n'est pas une mesure de piété. Un juif habite la terre d'Israël. Est-ce que c'est une mitzvah des rabbanon de Horaïta? Marloket Rishoni, discussion de Rishoni. D'après le Ramban, Nahmani, c'est de Horaïta. Le Rambam, Maïmonide, comme c'est la Halakha, c'est des Rabbanan. C'est une loi des Rabbanan. Mais c'est une loi. C'est tout aussi important que de ne pas manger de la viande qu'on n'a pas salée ou de ne pas manger du gruyère avec un hamburger. Tout ce sont des lois des Rabbanan que personne de religieux ne fait. Donc un religieux est censé habiter la terre d'Israël. Pourquoi les religieux, beaucoup, n'habitent pas la terre d'Israël? Pour ces raisons-là. Ah, pourquoi les Rabbanim, ils quittent pas la France et les États-Unis? Parce que si les rabbanim quittent les États-Unis, tous les juifs là-bas, ils vont devenir goy. En deux mots, s'il n'y a pas un monde de Torah qui reste à l'étranger pour combattre la dure et difficile assimilation qui existe avec un monde de Torah, avec des rabbanim qui vont guider le peuple, il va tout simplement se perdre, s'autodétruire, se perdre dans la nature. Donc, il y a le mitzvah aussi d'envoyer des rabbanim d'ici en Israël à l'étranger pour aller sauver le peuple. Mais si quelqu'un, il reste à l'étranger pour aucune de ces raisons qui est permise, alors il transgresse un interdit des rabbanim. Parce que cette terre d'Israël, peut-être on rejoindra cela, peut-être la question du mazal, c'est peut-être important de parler. Tu as posé une question que je répète maintenant. Comment se fait-il que d'un côté il est dit qu'il n'y a pas de mazal au peuple d'Israël, je traduirais mazal de destin, d'accord, on est au-dessus des destinées visées de Dieu, et d'un autre côté, on voit maintenant que nous sommes dans la période des 3 semaines de deuil d'Israël, que oui, donc s'il y a des périodes, donc ça veut dire qu'il y a une destinée, il y a des périodes qui montent, ça monte et ça descend. La réponse à cette question, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est que le mazal? Le mazal, c'est pas tout simplement la destinée qui est fixée à l'avance, ça n'a rien à voir avec cela. Dieu a créé ce monde naturel, le monde physique, est géré par une réalité métaphysique, d'accord? On sait très bien aujourd'hui que la matière n'est pas matière, il y a de l'énergie qui fait que, il y a des lois de la nature, la terre, elle tourne, les plantes, elles poussent vers le haut, pas vers le bas, il y a une nature normale. Qui gère cette nature? Cette nature physique est gérée par quelque chose de métaphysique. Ce quelque chose de métaphysique s'appelle Elohim. C'est le nom de Dieu qu'on appelle Elohim. Elohim, en valeur numérique, ça vaut 86. C'est la valeur numérique du mot Hateva. La nature. La nature égale Elohim. La nature, c'est-à-dire que pourquoi la Terre elle tourne? C'est la nature. Alors pourquoi le soleil brille? C'est les lois de la nature. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses qui se passent sans qu'il y ait une force qui fait. Une force, il y a quelqu'un qui fait cette force. On appelle cela Elohim. C'est la voie par laquelle Dieu agit dans ce monde-là. Maintenant, les peuples aussi. Il y a 70 grandes familles de peuples. Il y a plusieurs peuples dans le monde, plus de 70, mais il y a 70, on va dire, registres de peuples, familles de peuples. Tous ces peuples-là ont droit à la vie. Ils ont depuis Dieu, passe comme dans la nature, tu as besoin maintenant, c'est marqué que chaque petite plante, elle a un ange qui lui tape dessus, qui lui dit monte, c'est-à-dire qu'on a les lois naturelles, métaphysiques, qui vont faire que la physique fonctionne comme il faut, de même au niveau des peuples. Au niveau des peuples, chaque peuple a droit à la vie. Il a un flux d'abondance, de vie, de guérison, de prospérité qui lui revient naturellement. Dieu a créé ce monde, il veut que ce monde soit habité, il a créé aussi les tuyaux de flux d'abondance qui vont amener la vie à la terre, la vie à l'humanité. Ça passe par 70 tuyaux correspondant aux 60 tuyaux, ce sont des tuyaux métaphysiques, on ne les voit pas, il n'y a rien du tout. D'accord, ce sont des canaux de lumière qui descendent depuis Dieu vers les peuples. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la parnassa, au bien-être, à la prospérité, d'après ce que Dieu gère au jour de Rosh Hashanah, combien chacun recevra. Mais ils ont droit à recevoir. Am Israël n'a pas droit. Rien. Lorsque Abraham regarde les étoiles, il regarde maintenant cette réalité métaphysique par laquelle Dieu agit. Dieu agit, c'est marqué qu'il agit par le biais des étoiles. On a 10 puissance 19 étoiles, 10 milliards de milliards d'étoiles dans l'univers. Par leur biais, Dieu agit dans le monde. D'après les étoiles, la réalité maintenant naturelle, on n'a pas droit à la vie. Abraham Avinu n'avait pas d'enfant, il est stérile. Il n'a pas d'enfant. Donc, Am Israël n'existe pas. Dieu le prend au-dessus des étoiles, c'est marqué comme ça dans le Midrash, et lui dit, regarde, sors, tser nistagelenu shelcha, sors maintenant de ton astrologie. C'est vrai que naturellement, tu n'as pas droit à la vie. Mais tu fais partie maintenant d'une autre entité qui est surnaturelle. Je crée maintenant une chose qui est au-dessus de la nature, anormale, le peuple d'Israël. Nous sommes un peuple qui n'a pas de mazal. Mazal, ça vient du mot l'isole. C'est quoi l'isole? L'isole, c'est versé. Ça coule. Depuis Dieu, coule par ces tuyaux un flux d'abondance. Nous, on n'a pas de tuyaux. Il n'y a pas de mazal. Est-ce qu'on n'a pas de chance? On a de la chance. Mais ce n'est pas fixé de façon naturelle. On est branché directement à la source. dans la mesure, et c'est ça tout le problème, où nous sommes branchés avec la source. Si on est branchés à la source, on a droit à tout, avant tout le monde, mieux que tout le monde. On est à la source. Mais si on se débranche, on brise l'alliance. Alliance, c'est être allié, c'est être branché. Tu brises l'alliance, tu n'as plus droit. Et regarde que tu es un être anormal. Je l'ai fait très souvent, la question est posée, je le fais rapidement ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Tu as une voisine, Madame Dupont, qui habite sur ton étage, elle apprend que tu appelles Monsieur Cohen, un beau jour elle fait ding-dong sur la sonnette, Monsieur Cohen, oui, excusez-moi, je suis la voisine, Madame Dupont, comment allez-vous, bienvenue, écoutez, j'ai vu votre nom, la Cohen, et si je ne me trompe pas, c'est un nom juif. Oui, madame, c'est un nom juif. Alors, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Pouvez-vous me dire, Monsieur Cohen, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Ça fait des années que je pose la question. On parle beaucoup de vous dans le journal sans cesse. C'est vrai, pas tellement bien. Je suis heureux, je vois que vous avez l'air bien, le nez un peu long, mais ça avait l'air tout à fait bien. Alors, veuillez peut-être m'expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce qu'on lui répond? Posez la question à des juifs. Je vous pose la question. Alors, il y en a qui connaissent la réponse ici dans la salle, mais 99,9% des juifs ne connaissent pas la réponse. Est-ce que c'est une religion? Non. Parce qu'on peut être juif sans être religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux, il reste juif. C'est marqué clairement, Israël, Afapishachata Israël, Israël, bien qu'il a péché, il reste Israël. Un juif qui se convertit à une autre religion, il reste juif à part entière comme vous et moi, comme Moshe Rabbeinu.
Pourquoi on utilise le terme Am Israël plusieurs fois alors si c'est, on dit on n'arrive pas à définir, même peuple on n'arrive pas à définir. Alors pourquoi on utilise plusieurs
attends,
fois
attends, ok, c'est le nom, mais je m'attends à dire. C'est quoi Am Israël, juif, ou Am Israël, c'est deux noms pour la même chose. Et elle demande, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Am Israël? Est-ce que c'est un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, ça peut être une race. Est-ce que nous sommes une race? Tous les descendants d'Israël. Israël, c'est notre père, Yaakov. Bnei Israël. Non. Parce qu'on peut se convertir. Un convertir, son père s'appelle Christian, sa mère s'appelle Christine, son arrière-grand-grand-père s'appelait Bouddha. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas comment. Et ouais, bonjour, il se convertit. Mazal Tov. On ne peut pas dire qu'il est Bnei Israël, c'est pas un descendant de Yaakov avec nous. Donc c'est pas une race. C'est pas une religion. Est-ce que c'est un peuple défini par une terre? Am Israël, ceux qui habitent la terre d'Israël. Non. Bien qu'il est vrai que nous sommes attachés à cette terre-là, mais nous ne sommes pas définis par cette terre. Ça fait 2000 ans qu'on n'habite pas cette terre. C'est plus de 2000 ans que la majorité des Juifs, 2500 ans, que la majorité des Juifs n'habitent pas la terre d'Israël. Beaucoup de Juifs n'ont jamais mis les pieds en terre d'Israël, et pourtant ils sont Juifs. On n'a jamais entendu que tu étais Juif dans la mesure où tu es branché avec la terre d'Israël. Ça n'a rien à voir. C'est pas ta définition. Donc tu n'es pas une religion, tu n'es pas un peuple. T'es pas une race, alors qu'est-ce que t'es? On donne la réponse parce que ça prend toujours beaucoup de temps pour que les gens la trouvent. Un juif, c'est un bidule machin venu d'ailleurs. Madame Dupont, ne cherchez pas. Nous sommes un énergumène bizarre venu d'ailleurs. Il n'existe absolument aucune définition rationnelle du juif. Incatalogable. Pourquoi? Parce que la réalité du juif, c'est vrai qu'on a un corps qui a l'air normal, mais nous avons une âme anormale. On est branché directement avec Dieu, on fait un avec Dieu. Et de même que Dieu est indéfinissable, le peuple juif est indéfinissable. De même que Dieu est éternel, nous sommes un peuple éternel. Ça fait 3500 ans qu'on est là, bien que tous essaient de faire qu'on ne soit pas là, on est toujours là. Comme on dit le soir du Seder, Bechol, Lavador, chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Ça a été écrit il y a 2000 ans, la Gada du soir de Pessah. Il dit là-bas, chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Chaque, et regardez, c'est extraordinaire. Il y a toujours quelqu'un qui se lève. Aujourd'hui, on a Bin Laden, Saddam Hussein, il y a quelques Arafat, le monde, 1 milliard 300 millions d'Arabes qui nous entourent, plus aujourd'hui l'Europe, l'UNESCO. On est amis, tout le monde nous adore. S'il pouvait, d'accord? Il y a 30 ans, Nasser. Il y a 50 ans, Staline. Il y a 60 ans, Hitler. Avant les bolcheviks. Avant les tsars. Avant les cantonistes. Avant les cosaques. Avant l'inquisition. Avant les croisades. Extraordinaire. C'est un petit peuple de rien du tout. À peine 10, 15 millions, on ne sait pas. Par rapport à 6 milliards d'habitants. On parle de nous sans cesse. Et chaque génération, quelqu'un se lève avec une idée nouvelle, inconnue au répertoire, tout à fait original. Écoutez les potes, j'ai une idée, on va exterminer le peuple juif. Et nous, on n'est rien, sans armée. Chazal disent comme une brebis parmi 70 loups. On n'a pas de dents, on n'est rien, une brebis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais que prie à Dieu. Et ça marche. Ça marche. après 3000 ans d'histoire. Les loups n'existent plus. Ceux qui ont voulu venir contre nous, ils ont été complètement purs. C'est qui le bolchevique, quelqu'un connaît la Russie, aujourd'hui terminé. Les nazis, Nasser, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Choum d'avar. Et Am Israël, Chai Vekayam. Chai Vekayam, vivant et existant, Baruch Hashem. Comment ça se fait? Ah, même les goïms, je détecte, je ne vais pas les citer maintenant, de goïms, ils disent, Mark Twain, c'est quoi ce truc machin, c'est quoi ce peuple-là, qui vit, ce sont des manifestations de l'éternité. Nicolas Berdaïev, un sociologue russe, il est profondément marqué du saut métaphysique qui ne s'explique ni en termes positivistes, ni en termes matérialistes. C'est un truc métaphysique. Il dit là-bas, peuple mystérieux et merveilleux. De qui il parle? De vous, Blainara, mystérieux et merveilleux. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mystère, merveille, 4000 ans ce peuple. Alors t'es indéfinissable, t'es éternel, t'es un peuple un. Nous maintenant nous sommes dans les 3 semaines de deuil de Tisha B'Av. On va pleurer le jour de Shabbat, on est parti en train de pleurer d'un malheur qui a eu lieu il y a 2000 ans. Comment ça se fait? T'as un peuple qui porte pour un malheur il y a 2000 ans. Tu aurais ton copain maintenant, monsieur Dupont. Il est un peu triste. Qu'est-ce que t'as, Martin? Martin Dupont s'appelle. Martin, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai pas la forme aujourd'hui. Où tu vois une larme? Pshh. Tout à coup, il a une larme qui tombe. Martin, il a une larme qui lui tombe des joues. Martin, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je vais te dire. Verdun. 400 000 morts en un mois. Il a 20 ans, il n'a pas 94 ans, M. Martin. Il a 20 ans. Il vient lire un bouquin maintenant, qui paraît, il a lu 400 000 morts en un mois à Verdun. Il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Ben, t'appelles le psy, il a une déprime. Il lui faut des Prozac, ce type-là, il est mal. Mais nous sommes maintenant en deuil pour, c'était environ 500 000 morts qui sont morts il y a 2000 ans. Et chaque juif, quand il voit dans un livre d'histoire qu'il y a 800 ans, ont été brûlés, je vois à Rouen, ont été brûlés en 1180, 20 juifs, ça fait quelque chose. Je ne connais pas ces gens-là. C'est ni ma famille, je ne suis pas français d'origine, surtout pas il y a 800 ans, je ne connais pas. Pourquoi ça fait quelque chose? Peuple 1, on est touché. Chazal dit, le Midrash dit, le peuple juif est comparé à un tas de noisettes. T'enlèves une noisette, tout dégringole. Tout le monde ressent. Quand un juif disparaît, tout le monde ressent. T'as pas de mobilisation au monde aussi grande. Lorsqu'il y a un attentat ici, tout le monde souffre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à des 1000 kilomètres, des accidents de voiture tous les jours. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Encore un mutilé. À quoi encore un mutilé? C'est notre âme, on le sent. T'es un peuple éternel, t'es un peuple indéfinissable, t'es un peuple un. Ce sont 3 attributs de Dieu. Éternel, indéfinissable, un. Ça veut dire que nous sommes, on a dans notre source, on a une réalité anormale. C'est ça, en mazal le Yisrael. T'as rien à voir, t'es dans un autre registre. Ça dérange. Hitler écrit comment ça fait que ce peuple vive depuis 4000 ans. Ça dérange. Ça provoque l'antisémitisme, c'est un peuple différent. Maintenant, pourquoi ça provoque tellement l'antisémitisme? Parce que nous, on n'est pas branchés avec Dieu. Si on est branché avec Dieu, tout va très bien. Mais on veut quitter Dieu, on veut être comme les autres. Alors on vient, et nous aussi on veut un tuyau. T'as pas de mazal. Mais nous aussi on veut. Alors vous mangez, vous bouffez le pain des Français. En Italie, vous bouffez le pain des Italiens. Et c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas à être avec eux. On n'a pas à prendre de chez eux, on n'a pas droit. On a une terre. On n'a pas droit à cette terre. T'as pas droit à cette terre. Tous les peuples qui ont eu leur indépendance le dernier siècle, il y en a des dizaines, lorsqu'ils ont accédé à leur indépendance, il y a eu un peu de grabuge, des guerres, des tags, des batailles, on n'est pas content, ta-ta-ta-ta-ta, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, ça s'arrête. Tout s'aplanit, on est calme. Un seul peuple a accédé à son indépendance, il y a 57 ans, le peuple d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu avaler cette pilule. Vous n'avez pas droit à cette terre, elle ne vous appartient pas, vous êtes une bande de voleurs décampés. D'après leur dire, leur façon de voir, ils ont raison. Parce que t'as pas de mazal, t'as pas de terre, t'as pas de peuple, t'as pas droit à la vie, décampe, ils ont raison. Notre seule légitimation à exister sur cette terre, elle est mon branchement avec Dieu. Et tant qu'on ne fera pas cela en terre d'Israël, on n'aura pas droit à cette terre. D'ailleurs, Dieu nous le montre très bien. T'as la meilleure armée du monde. Après la guerre, en 82, on nous a dit, vous êtes la 4e puissance mondiale. Après l'Amérique, la Russie, la Chine, Sahel. On marchait comme ça dans la rue. meilleur tankiste, meilleur pilote d'avion, meilleur Shabbat, service de renseignement, meilleur commando, meilleur aviateur, meilleur cuistot, meilleur tout. Meilleur tout. La DAF à l'armée, c'est quelque chose. Comme ça. Je suis à l'armée israélienne. J'aide mon peuple. Très bien. C'est certain qu'il faut aider son peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Dieu, il voit que la majorité l'ont oublié. On veut être comme les autres. On veut un pays comme les autres. On veut une armée comme les autres. Ben Gurion a dit on veut aussi des prostituées comme les autres et des prisonniers, des gens en prison, des brigands. Il veut un peuple comme les autres. Très bien. T'es pas comme les autres. Alors, tu es la 4e puissance mondiale. Aujourd'hui, on est la 3e parce que les Chinois, la Russie n'existe plus. 3e puissance mondiale. Et au niveau qualité-quantité, tu es le meilleur. Qualité-quantité, tu es le meilleur tankiste, le meilleur tout du monde. Aïe, ce que je viens d'en parler. Il y a une histoire dans la Bible que tout le monde connaît. David et Goliath. Repasse-moi la Bible en français. Merci bien. Je vous la lis. Samuel. Samuel 1, chapitre 17. Histoire que tout le monde connaît. David et Goliath. David n'est pas soldat. Ses frères sont soldats au front. Il y a à côté l'armée philistine, de l'autre côté l'armée israélienne. Sort un géant terrible, il s'appelle Goliath. Avec une armure du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Une cotte de maille, on ne peut pas percer rien. Aucune pierre, aucune flèche peut rentrer. Avec un bouclier, quelqu'un qui avance avec lui, devant lui avec un bouclier, une lance, une épée. Et il se met à blasphémer, à bénir le Dieu d'Israël. Bénir, je dis, c'est en maudit, on dit blasphémer, on dit bénir. Et il dit, sortez un de chez vous. Pourquoi on fait la guerre, nous tous? Il y a un qui vient, celui qui gagnera, alors l'autre sera, tout le peuple en face sera vaincu. Et tout juste se met à trembler. David est envoyé par son père pour amener un petit pique-nique, un petit cadeau, des gâteaux à ses frères. Et tout à coup, il voit que tout le monde se met à trembler. Et il voit Goliath en train de blasphémer. Il me dit, c'est quoi cet incirconcis qui parle comme ça? Ah, tu sais pas, tous les jours comme ça, tout le monde tremble de lui. Et le roi a promis sa fille, une grande richesse, celui qui ira se battre contre lui. Et moi, je vais aller se battre, c'est quoi ce chien-là, comme il se permet de parler. Allez, David, allez, rentre à la maison. Et il a 17 ans, tout le petit gosse. Je vais aller. Bon, il insiste, on l'amène chez le roi. Le roi lui dit, viens, prends mon armure. Et il prend l'armure du roi Shaoul. Il dit, l'omnicity. Je suis pas habitué, je connais pas moi les armures, les armes, comme ça. Moi, je vais avec mon bâton de berger. Il va prendre, je vous lis le texte dedans. Il prit son bâton à la main, choisit dans le torrent 5 cailloux lisses. Pourquoi 5? Deux explications. La première, on dit qu'il était à l'origine des Tunisiens. Je ne sais pas ce que vaut cette explication. La deuxième, Chazal dit, parce que ça correspond aux 5 livres de la Torah. Even, c'est la pierre. La contraction du mot Av Ben, père, fils. Nous, notre force de Ham Israël, c'est la transmission de la Torah de génération en génération. On est le même peuple depuis 4000 ans parce qu'on transmet les valeurs qui sont éternelles. On reste le même. De même au Charben où il se lève, on met les mêmes tfilin, les mêmes tzitzit, la même Torah, le même parachat de la semaine, le même Shabbat. La langue reste le même parce qu'on a un repère, on a un texte écrit avec les points, on sait comment on le dit, ça n'a pas changé depuis 4000 ans. Toutes les autres langues, elles changent. Nous, on ne change pas. Av Ben Even, l'éternité de la Torah. Il prend ses 5 pierres, qu'il met dans émule de sa fronde, qu'il met dans sa panière de berger, qu'il met donc les 5 pierres dans sa panière de berger, et mule de sa fronde s'avança vers le Philistin. Celui-ci s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin, considérant David, le regarda avec dédain parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Il dit à David, suis-je un chien que tu avances contre moi avec des bâtons? Il maudissait David en invoquant son Dieu. Le Philistin dit à David, « Viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. » Donc le Philistin, il vient avec son bouclier, tout ça, son arme, il se met à maudire, blasphémer contre David et contre le Dieu de David. David répondit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je viens au nom de l'Éternel Sébakot, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir, je t'abattrai, je te couperai la tête, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute la multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin, que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître de la guerre, il vous livrera en notre pouvoir. » Et il court contre le Philistin, il prend la pierre, la fronde, il lance, miracle se passe, la pierre elle traverse la côte de maille, le front, il tombe mort par terre. Il prend l'épée, il lui coupe la tête. Et tout le monde part, tous les Philistins s'enfuient en courant, au secours. L'histoire est connue. Mais la moralité de l'histoire, la leçon qu'on doit tirer, c'est pas que des histoires à la Bible, c'est des enseignements, c'est quoi? Lorsque tu as une confrontation, d'un côté, la côte de maille, l'armure, Goliath, le géant physique, il a une armure, il a un blindage du Merkava, un truc hyper solide, il a des missiles, des lances, des flèches. Et t'as Dieu, la Torah de Dieu, les cinq pierres. Qui gagne? La Torah. Ça, c'est l'enseignement. C'est ce qui est marqué ici. En cela, David est grand. T'es pas un grand courageux. Il sait que, il lui dit, toi, tu viens avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel, des dieux des légions d'Israël que tu insultes. Et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. C'est ça la leçon. Que lorsque tu as une confrontation entre les deux, qui gagne? Dieu ou la lance? Dieu! C'est tout. Ça c'est notre force à nous, à Israël. À Israël, c'est marqué Tolat Yaakov, vert de Yaakov. C'est pas très romantique d'appeler le peuple d'Israël vert. Pourquoi on l'appelle vert? Vert de terre, hein? Parce que Chazal disent, le vert, sous toute sa puissance, n'est que dans sa bouche. Il n'a pas d'armure, il n'a rien, il n'y a qu'une bouche. Il mange avec ça. Avec notre bouche, on peut prier, on est branché à la source. Encore faut-il qu'on appelle la source, qu'on soit branché à la source. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Une chose que je dis avec souffrance, je vous le dis avec souffrance. Il a vu que, ici, on a oublié Dieu. En Israël, hélas, la majorité, on a oublié Dieu. On se dit, on est le plus fort, on a les meilleures armes, les meilleurs tankistes, les meilleurs aviateurs. Ok. Vous m'oubliez à moi. Ok. La leçon, vous n'avez pas compris la leçon de David et Goliath. Dommage. Alors je vais amener maintenant, il faut que je vous enseigne cette leçon, comment je vais faire? Je vais venir contre vous, vous prenez pour Goliath. Vous prenez pour les Goliath. Bon, on va venir contre vous, les petits David. Des pas des Philistins, des Palestiniens. C'est la même chose. Qui proviennent, il vient de où? Goliath, c'est où sa ville? Gaza. Des petits enfants Philistins de Gaza qui vont lancer des pierres avec des frondes au nom de Dieu. Et la plus grande, la plus puissante armée du monde, ligotée. Aujourd'hui, on rend Gaza. On va se faire canarder par des missiles bientôt. Tout le monde tremble. Qui a gagné? Qu'est-ce qu'ils ont? T'as le tank, t'as le petit gosse avec la fronde. Et clique la photo. Vas-y, tire. Le monde entier qui est là, qui... Vous ne pas quand même bouffer les petits Palestiniens. Mais c'est nous les victimes. Non, c'est eux les victimes. Regardez, claque la photo. Tu as des tanks, tu as la meilleure armée du monde. À quoi ça sert à ton armée? À rien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas une armée. Il faut une armée. Kamouvan, il faut une armée. Je vais faire un cours entier là-dessus. Il faut une armée. Mais il faut Dieu. Sans Dieu, l'armée ne vaut rien. Il ne faut pas oublier Dieu. Ça, c'est l'essentiel. On a vu dans la parasha, on va voir ce Shabbat, parashat Matot. Moshe Rabbeinu part en guerre. Il part en guerre contre le pays de Midian. La Torah va raconter dans parashat Matot, vous allez voir tout le butin qu'ils ont fait. C'est des centaines de milliers de têtes de bovins et de personnes. Un peuple entier, ils ont conquis. Une terre entière. Elle fait combien de soldats à l'armée israélienne à l'époque de Moshe Rabbeinu? 600 000 soldats, n'est-ce pas? C'est marqué dans le texte noir sur blanc. Combien partent au combat? Hein? 12 000. Elef Lamate, Elef Lamate, c'est marqué clairement à Torah. Elef Lamate, 1000 par tribu. Et que font les 588 000 qui manquent? Ils sont allés quoi? À la plage? Le Midrash dit, la moitié est allée prier, la moitié au Beth Midrash sont en train d'étudier la Torah. Tosfot, Rashi, Abkeveger, Ktsois. Je comprends, on est en guerre, c'est ça que tu fais? Mais ma force est dans ma bouche. Alors, faut faire un état de doute. Il faut faire un état de doute. Quand quelqu'un il est malade, qui envoie la guérison? Dieu. Mais Dieu a dit, tu vas faire le jeu comme si. Dieu ne veut pas faire de miracle clair dans l'humanité. Dieu est obligé de cacher dans ce monde-là. Ce monde s'appelle Olam, la racine Ne'elam, ça veut dire caché. Dieu doit jouer le jeu dans ce monde, pour des raisons que je ne vais pas évoquer maintenant. Il a créé un monde où il est caché. Pour laisser un libre arbitre, qu'on puisse choisir entre la vérité et le mensonge. Il faut laisser une grosse place au mensonge. Faire comme si Dieu n'est pas là. Faire comme s'il n'est pas là. Ça veut dire que je dois jouer la comédie. C'est Dieu qui m'envoie la guérison. Mais je n'ai pas le droit de rester dans mon lit et dire « Dieu, c'est toi qui m'envoie la guérison, terminé. » Non, je vais voir le médecin, le meilleur médecin. Je prends le meilleur médicament, exactement comme il faut. Sachant très bien que tout ça, c'est le cinéma. Mais Dieu ne veut pas faire de miracle clair, ostensible, un fumigène, tac, t'es guéri, t'as prié, t'es guéri. Il ne veut pas faire ça. Il veut que tu fasses comme si. Alors je joue le jeu comme si. Ça, c'est le cinéma. L'action, je prie. Dieu, envoie-moi la guérison. Et c'est comme ça que ça marche. Même chose, la Parnassa. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, Dieu fixe combien on va recevoir d'argent. C'est marqué. Alors qu'est-ce que je perds mon temps? Je vais aller au club, mais tout pour une année. Je vais faire gauche-droite. Et de toute façon, Dieu a décidé, ça tombera. Interdit. Tu es obligé de jouer le cinéma. Tu vas aller travailler, tu vas gagner de l'argent à la sueur de ton front. Alors si c'est moi qui gagne ou c'est Dieu qui envoie? C'est Dieu qui envoie jusqu'au dernier centime. Pas plus, pas moins que ce que Dieu a décidé. Alors pourquoi je joue le jeu? Dieu veut que tu joues le jeu. C'est comme ça que Dieu a fixé. Tu as joué la comédie. Et bien la jouer. Mais pas y croire. Pas y croire à la comédie. C'est une comédie. C'est une comédie, gagner l'argent. C'est une comédie, prendre les médicaments. Idem, protéger son pays. Il faut faire une ishtad lout. Il faut maintenant jouer le jeu. On ne va pas comme ça faire « Ouah !» aux Arabes, ils vont tous partir. Normalement, oui. Mais on n'est pas au degré où Dieu fait des miracles aussi grands. Alors on doit jouer le jeu. On va acheter un tank, on va entraîner une armée, et on va jouer le jeu. Sachant que ce n'est qu'une comédie. Ceux qui sont là-bas, ils jouent la comédie. Bon comédien, c'est tout. Mais l'action, elle est où? La bouche. Et ça, j'ai une preuve catégorique. Vous avez la preuve catégorique? D'abord, je vais montrer une partie de la preuve. C'est que nous, on a cru à nos armes. On a cru à la comédie, qu'elle nous sauverait. On n'a pas cru au bon Dieu, ça n'a pas marché. On est en train de vivre la crise maintenant. T'es la meilleure armée du monde, tu trembles de prendre le bus dans ta ville. T'es la meilleure armée du monde, l'Amérique c'est des troufions à côté des soldats israéliens. Qu'est-ce que c'est l'Amérique? C'est rien du tout. T'es la meilleure armée du monde. L'Amérique, on leur tue, hein, on leur fait un attentat, et tout l'Afghanistan rasé, on va peut-être pétrole, tout l'Irak rasé. Toi, toutes les semaines où tu sautes dans les bus, tu peux rien faire. Absurde. La meilleure armée du monde, zigouille, terminé. On peut pas. Mais qui gère le monde? Si Dieu n'existe pas, ok. Alors faut. Mais si Dieu existe, on parle en tant que personne savant que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il me fait faire ça? Pourquoi t'as rien compris, espèce de crétin? T'as rien compris? Ça fait 4000 ans que tu survis. T'es rien, sans armée et des peuples antiques qui veulent ta mort et eux ont disparu et toi t'es là. Comment t'as fait? T'as oublié la leçon de Goliath et David? T'as oublié la leçon de comment on part en guerre? Regarde toutes les guerres de la Bible, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous l'avez étudié, j'ai entendu. C'est Siawa Meller. Il est entouré de 185 000 chefs de garnison irakienne. Il y a le siège sur Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dieu, écoute, mon arrière-grand-père David, il fait se battre. Moi, je ne vais pas me battre. Alors, je vais dormir, je te laisse t'occuper de ça. Il va dormir, le matin, il se lève. Ils ont vu les habits, tout le butin des Irakiens jusqu'à Damas éparpillé sur la route. Ils sont tous partis en courant. Vous voyez que les anges sont venus, ils ont chanté. Des anges qui chantent, ils ont vu ça, les Irakiens, ils sont partis en tremblant. Qu'est-ce que je vous raconte maintenant? Je vous raconte deux histoires. La première histoire, non, peut-être celle-là. Ok, la première, je vais faire à l'envers. Ils sont authentiques. On ira à Bézat Hachem dimanche, lundi, à un endroit dans le Golan où il y a eu les plus durs combats de la guerre de Yom Kippour, la guerre de Kippour. Dans le Golan, la partie du sud qui a été conquise par les Syriens, mais au nord, une trentaine de tanks ont résisté à 2000 tanks syriens. On ne comprend pas. 2000 tanks contre 40 tanks, ça n'a aucune chance de tenir. ils ont attrapé le général de la garnison des tanks syriens. C'est dans les registres du Shabak, ça. Ils l'ont interrogé, interrogatoire. Pourquoi tu as 2000 tanks, tu n'as pas donné l'ordre d'avancer? Il dit, vous croyez que c'est facile de dire donner l'ordre d'avancer quand tu vois devant toi des anges qui te disent n'avance pas? Le général de l'armée syrienne, dans les registres officiels du Shabak, c'est pas un rigolo. Comment on se bat, nous, à Israël? Et ça, l'histoire des anges, il y en a des centaines. Mais moi, je donne quelque chose de beaucoup plus. Ça n'a pas besoin de croire aux gens qui ont dit qu'il y aura des religieux et racontent qu'il y a eu des anges. C'est une histoire que là, personne ne peut rien dire du tout. La guerre du Golfe. Où notre armée était tout simplement pour rien faire. L'armée, elle a fait zéro. On a demandé à l'Amérique, supplié, envoyez-nous des missiles patriotes qu'ils ont envoyés pour finir, des missiles anti-missiles Scud qui valaient zéro. Dernièrement, c'était marqué dans le journal, l'État d'Israël a mis au point un missile, c'est le missile Hetz, qui est contre les Scud. Une fois sur deux, il rate. On n'a pas encore retrouvé la parade contre les Scud. À l'époque, il y en avait zéro. Donc on a compris, il n'y a rien à faire. Rien à faire. En tant que des Scud sont en vol pour Israël. Ça prenait 4 minutes. Ça prenait 6 minutes du moment qu'il décollait. Ça prenait 2 minutes pour qu'on sache que le signe soit, de détection soit découvert et transmis au monde entier. Il ne restait plus 4 minutes. 4 minutes dans lesquelles le monde entier savait, tout s'arrêtait. Les radios, les télévisions, tout s'arrêtait. Des Scud sont en vol pour Tel Aviv, Ramat Gan. 39 Scud sont tombés en terre d'Israël. Combien de morts il y a eu à la fin de la guerre? Un de crise cardiaque. Zéro mort. Chaque Scud possède une charge explosive de 350 kg. 350 kg d'explosifs, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est, d'accord? C'est-à-dire qu'un bâtiment comme celui-ci de 5-6 étages, avec 40 kg bien placés, tu ne laisses pas une pierre sur une autre. 350 kg d'explosifs, c'est énorme le pouvoir de destruction. 10 000 appartements ont été détruits. Des rues entières ravagées. À la fin de la guerre, zéro mort. Je comprends pas. Le premier missile, ils ont dit à la radio, j'ai entendu de mes oreilles, j'avais à l'époque, j'avais 15 ans, 30 ans. C'est le vent. Le premier missile, ils ont dit, c'est le vent. Il y avait un petit vent de 80 km à l'heure. Après, ils ont plus osé dire cette bêtise, quoi le vent? Le missile atterrit à 6000 km à l'heure. Que fait le vent? Ils ont plus osé dire cette bêtise à la radio. Ils ne comprenaient pas comment tu as mis une bombe pareille qui tombe. Il tombe où? On fait un petit calcul statistique pour les gens qui sont un peu... ne comprennent pas très vite. Je prends 39, j'arrondis à 40. Je prends 40 bombes de 350 kg, les yeux fermés, je lance sur une ville. Combien tombe dans la rue? Combien tombe dans les bâtiments? Moitié-moitié. Une ville, c'est moitié des rues. Une ville, c'est moitié des rues, moitié des bâtiments. Et quand on dit ça, je suis très gentil, parce que les scuds n'atterrissaient pas comme ça, ils atterrissaient comme ça. Donc il y a plus de chances de toucher un bâtiment que toucher une rue. Mais on va dire moitié-moitié. Donc 20 dans la rue, 20 dans les bâtiments. Ramat Gan, petit bâtiment de 3 étages, 4 appartements par étage, ça nous fait 12 appartements. On va dire 4 personnes par appartement, ça nous fait 4 fois 12, ça nous fait 48, j'arrondis à 50. 50 personnes en moyenne par bâtiment. Alors 20 fois. Une bombe de 350 kg tombe dans un bâtiment dans lequel contient 50 personnes. Le bâtiment explose, les personnes explosent. À la fin de la guerre, zéro mort. Je reste calme, explique-moi. Ils ont dit après, c'est un pétard mouillé. Fait beaucoup de bruit, mais rien du tout. Beaucoup de bruit, mais aucun effet. Le dernier scud de la guerre, numéro 40, n'est pas tombé à Ramat Gan, est tombé en Arabie Saoudite sur une base américaine. Un scud, 200 morts. Un scud, 200 morts. Pas si mouillé le pétard. Je pose la question. Alors explique-moi, 39 scuds sur une ville. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Du miracle pur et dur. Il n'existe à ce jour aucune explication rationnelle. Aucune explication rationnelle qui explique comment 30 scuds tombent sur Ramat Gan Tel Aviv, t'as zéro mort. Je ne pourrais pas parler maintenant, mais il y a des milliers de miracles. À l'époque, on avait interviewé, on avait regardé, on avait pris dans les interviews dans la télévision, ils montraient des jordaniennes même, israéliennes, on a fait tout un film d'une demi-heure, des gens qui racontent ce qui s'est passé. des miracles, chacun au bon moment, il était où il fallait au bon moment. Le miracle du gaz. Il y a une centrale de gaz au nord de Tel Aviv, et soi-disant secrète. Si un scud touchait cette base, ce réservoir de gaz, toute la ville, l'explosion par les tuyaux, se propageait dans toute la ville. Et Saddam Hussein menaçait sans cesse qu'il allait brûler Tel Aviv, détruire Tel Aviv dans les flammes. Et c'est ce qu'il disait. On disait toujours à la radio, pendant 6 mois auparavant, il parlait toujours de Saddam Hussein, il disait, nous savons que lorsque Saddam Hussein menace, il est à même de réaliser ses menaces. Un scud a touché le réservoir de plein fouet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures auparavant, un dénommé Igal, l'employé là-bas à la chambre de contrôle, voit une petite lampe rouge qui s'allume, qui s'éteint, fuite dans le réservoir. Il va prendre sa lampe de poche, il va rapidement regarder sur place, il voit aucune fuite. Il rentre dans la chambre de contrôle, il voit la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Il dit, je ne prends pas de risque, je vide le réservoir. Il vide le réservoir et le scud a touché un réservoir vide. C'est un exemple parmi des milliers. Il n'existe, messieurs, aucune explication rationnelle du miracle pur et dur. Comme, pourquoi Dieu ne fait pas des miracles? Explique-moi ça, explique-le-moi-le. Alors moi j'ai l'explication. Je pense à cette explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant ces 4 minutes, entre le moment où le scud décollait d'Irak, il atterrissait. Il n'y avait rien contre le scud, rien à faire. Que font 15 millions de juifs? 10, 13 millions de juifs, je ne sais pas combien il y en a. 10 millions de juifs dans le monde. Religieux ou pas? Rien à faire. Un non-religieux dira pourvu que. Si au moins que. Un non-pratiquant, mais qui croit en Dieu, comme il y en a comme beaucoup. Dieu fasse que. C'est pas notre guerre, c'est une guerre entre l'Irak et l'Amérique, c'est pas nos affaires. Là-bas, ce sont des civils, des femmes, des enfants, c'est pas notre affaire. T'as 10 millions de juifs à l'unisson, ensemble, simultanément, dans le monde entier, en Australie, en Allemagne, en Amérique, dans les avions, dans les bateaux, en Israël, partout dans le monde. T'as 10 millions de juifs qui prient à Dieu, Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Dieu fasse que. 10 millions de juifs qui appellent Dieu, ça ne va pas marcher. Si Dieu existe, et nous sommes ces enfants que vous avez marqués, bannis un terme de Hachem, vous êtes des enfants de Dieu. Tous les enfants qui supplient leur père, il ne va pas répondre. C'est un père miséricordieux. Il répond. Il répond. Et tu l'as. Du miracle pur et dur. Messieurs, ça marche. Pas besoin de faire le guignol. Pas besoin de faire le guignol. Il faut simplement appeler Dieu. Ça marche. Hélas, hélas, beaucoup n'ont pas compris la leçon. Alors, on peut être branché avec Dieu, on préfère être comme les autres. Et ça ne marche pas. Ah, la Torah dit, Naval velo chacham, pardon, Am Naval, peuple idiot et pas intelligent. Pas intelligent, tu ne comprends pas, têtu. Am kshe oref, un peuple à la nucrète, ça fait 4000 ans que ça fonctionne comme ça. T'es un énergumène bizarre, venu d'ailleurs, mystérieux, les goïms disent c'est mystérieux, merveilleux, profondément marqué du sceau métaphysique, Nicolas Berdaïev. C'est clair. Tu veux être physique? T'es pas physique, t'es métaphysique, réveille-toi. Quand on prie, ça marche. Alors, je vais te rejouer encore une dernière chose. Je vais citer sur Ishmael, mais ça vaut la peine un peu de... Le Midrash écrit il y a 2000 ans, Périd Rabbi Eliezer, le plus vieux Midrash que nous avons. Il dit, pourquoi est-ce que Ishmael est-il appelé Ishmael? Ishmael signifie Dieu écoutera. Parce qu'à la fin des temps, c'est marqué dans Périd Rabbi Eliezer, chapitre 32, ça se trouve aux éditions Verdier aussi en français, ça n'a pas été inventé, c'est marqué depuis 2000 ans. Parce qu'à la fin des temps, Ishmael feront beaucoup de mal au peuple d'Israël. Et Israël va crier à Dieu, sauve-nous! À cause de toutes les douleurs que l'enfant Ishmaël. Et Dieu écoutera. Et Dieu nous répondra. Comme il est écrit, Ishmaël, Dieu écoutera, Veyanem, et nous répondra. Ça veut dire, Ishmaël, le nom d'une chose, s'évoque l'essence. Quelle essence Ishmaël? À quoi il sert? Pourquoi Dieu a créé 1,3 milliard d'Arabes qui nous entourent? Pour nous taper dessus. Parce qu'on est têtu, on a la nuque raide, on ne veut pas comprendre. Donc on ne doit pas comprendre, on doit appeler Dieu. Alors on peut appeler Dieu intelligemment ou bêtement. Quand tu dis à ton gosse, fais tes maths, il veut faire du foot. Alors, t'es un bon papa, tu expliques gentiment pourquoi faut faire des maths. Demain, tu vas à l'épicerie, tu vas acheter une sucette qui coûte 2 francs, tu vas donner un billet de 5 francs, tu vas faire une soustraction, c'est pas une soustraction, tu vas te faire avoir. Fais tes maths. Je dis, oui, papa, j'ai compris. Mais je le foute. Tu leur expliques de nouveau, une deuxième fois. Il dit, papa, j'ai très bien compris. Je le foute. Une troisième fois, tu prends tout ton temps, tu prends des exemples. Pourquoi c'est important les maths? Il lui dit, moi, je veux le foutre. J'ai très bien compris ce que tu me dis, je suis pas idiot, papa. Je veux le foutre. Alors, tu comprends qu'il a très bien compris. Mais la connexion entre la tête et le cœur ne se fait pas. Le cœur lui dit « je veux le foot ». La tête dit « c'est important de ne pas faire de foot maintenant, faire ses maths ». Mais entre les deux, il n'y a pas de relation. En tout cas, ça ne sert à rien de parler à la tête. Ça ne sert à rien de parler à la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles au corps. Comment on parle au corps? Tu vois ma main? Le corps comprend ça. Le corps « chomer ». « Chomer », c'est la matière. Chazal toujours appelle la matière « hamor ». Un âne. C'est marqué que le Messie vient sur un âne. Qu'on n'est pas capable de se réveiller. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Dieu? Il te montre, c'est clair. Le message, quelqu'un qui regarde clairement, c'est tellement clair. On ne peut pas comprendre. On a une crête. Ok, tu ne comprends pas avec la tête, on va comprendre avec le corps. À l'armée, on disait, ce que les gens ne comprennent pas avec la tête, ils comprennent avec les jambes. On disait courir sans cesse. Au bout d'un moment, ils comprennent. D'accord. Il y a qui ne comprenaient pas. Au bout d'un moment, ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les jambes. C'est comme ça exactement. À quoi servent 1,3 milliard d'Arabes, d'après la Torah, Ishmaël, pour nous taper dessus? Qu'on se réveille, qu'on crie à Dieu, et là, Ishmaël, là, Dieu nous écoutera. Dans Hachem, qu'on n'a pas besoin d'Ishmaël pour nous réveiller, qu'on se réveille nous-mêmes. Dans Hachem, bientôt, que nous envoie Mashiach. Avant 2 semaines.